J'étais frappé dans la lecture de ce chapitre 17 par ce verset, ce bout de verset, « Ma gloire rayonne en eux ». Vous imaginez ? La gloire du Dieu de l'univers rayonne sur vos visages. C'est une réalité, hein ? C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Voilà, alors je vais continuer une série que j'ai commencée il y a déjà pas mal de temps, toujours sur l'évangile de Jean, et j'en arrive au chapitre 8. Nous avions vu, la dernière fois au chapitre 7, que Jésus s'était rendu à Jérusalem pour la fête des tabernacles, malgré l'opposition grandissante des autorités juives. C'était pour lui un risque dont il était totalement conscient, risque d'être arrêté et jugé par le tribunal suprême juif, le Sanhédrin, avec pour conséquence sa très probable condamnation à mort. Mais il sait tout aussi parfaitement que son heure n'est pas encore venue, expression qui revient à plusieurs reprises dans cet évangile, et qui signifie le moment pour lui d'être mis à mort pour expier le péché du monde. Cette heure viendra, quelques 7 mois plus tard, lors de la Pâque suivante. Au cours de cette fête des tabernacles, qui est aussi la fête des récoltes, elle a lieu en septembre-octobre, il enseigne le peuple dans la cour du temple, à Jérusalem. Le dernier jour de la fête, il avait proclamé à pleine voix que si quelqu'un avait soif, il devait venir à lui, car des sources d'eau vive jailliraient de lui pour étancher la soif spirituelle de son peuple. Jean avait précisé dans son récit qu'il parlait ainsi du Saint-Esprit, qui allait être répandu sur les croyants après la mort et la résurrection de Jésus lors de la Pentecôte. Le chapitre 7 se termine là-dessus. Je rappelle que le découpage en chapitres et versets n'existait pas dans le texte original, notamment le texte de Jean, et a été rajouté par la suite pour que les lecteurs puissent se repérer simplement plus facilement. Dans la plupart de nos versions modernes de la Bible, vous pouvez observer qu'il y a des crochets depuis 7:53, c'est-à-dire le verset 53 du chapitre 7, jusqu'à 8:11. Toute cette section est entre crochets. Vous le voyez dans vos Bibles ? Non ? Ça tout dépend des versions que vous avez, mais voilà. Ces crochets signifient que l'épisode qui est raconté dans ces là n'est certainement pas de la plume de l'apôtre Jean. C'est l'épisode très connu de la façon dont Jésus a réagi devant une femme surprise en adultère et que les Juifs lui avaient amené dans l'espoir de pouvoir accuser Jésus une fois de plus de transgresser la loi. Cet épisode est soit totalement absent de plusieurs manuscrits, soit présent mais à d'autres endroits, à la fin de l'évangile de Jean dans certains, au beau milieu de l'évangile de Luc dans d'autres. En plus, il y a d'autres arguments qui font penser que ce texte n'est pas de Jean. Il interrompt manifestement le récit du chapitre 7, et ce récit continue manifestement à partir de 8, verset 12. De plus, les mots et expressions de ce récit ne cadrent pas du tout avec le style de Jean, le style littéraire que Jean emploie, etc. Bref, ce récit n'est très certainement pas de Jean, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas un épisode authentique de la vie de Jésus, rapporté par un auteur inconnu, mais pas par un apôtre. Je ne vais donc pas le commenter, d'autant que notre frère Jean-Pierre a prêché un jour sur cette section. Ce qui fait que nous allons lire le chapitre 8 en le prenant au verset 12. Donc, Jésus est dans la cour du temple, il continue à enseigner, malgré l'opposition des Juifs. Verset 12. Jésus parla de nouveau en public. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui répondirent « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai. » Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, moi je ne juge personne. Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai car je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. » Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Mais où est-il ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore : Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur quoi ils se demandèrent entre eux : Aurait-il l'intention de se suicider ? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles : Vous ne pouvez pas aller là où je vais ? Vous, leur dit-il alors, vous êtes d'ici-bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc ? Lui demande-t-il alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurai beaucoup à dire et beaucoup à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils, il veut dire lui-même Jésus, hein, si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici, et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Ils répliquèrent, Nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un samaritain, tu as un démon en toi. L'insulte de l'époque, c'était d'être samaritain. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous, vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent, « Cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais ? Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, ou que les prophètes qui sont tous morts ? Pour qui te prends-tu donc ?» Jésus répondit, « Si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. » En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur, comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils alors, tu n'as pas même 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham ? « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. » À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Vous remarquez tout de suite, je pense, la continuité de cette âpre discussion entre Jésus et les Juifs, déjà commencée au chapitre 7. Alors Jésus commence par dire en public qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Jean avait annoncé ça d'emblée dans le prologue de son évangile. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Cela signifie... Et Jésus le proclame clairement qu'en dehors de lui, tout n'est que ténèbres et mort, spirituellement parlant. Et Jean avait précisé dans son prologue, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Et c'est exactement ce qui va se passer à des degrés divers dans la discussion qui suit entre Jésus et ses interlocuteurs. D'abord, à partir du verset 13, les pharisiens affirment que son témoignage n'est pas vrai. Parce qu'il se rend témoignage à lui-même. La loi de Moïse stipulait en effet qu'un témoignage ne pouvait être recevable que s'il provenait de deux personnes au moins. Et bien sûr, si ces deux témoignages étaient cohérents entre eux. Jésus répond que son témoignage est vrai pour deux raisons. D'abord, il sait parfaitement d'où il est venu et où il va. Il affirme par là son origine céleste et son retour prochain vers le Père. Et deuxièmement, le Père qui l'a envoyé rend lui-même témoignage de lui. Alors Jésus ne précise pas dans ce passage en quoi consiste ce témoignage du Père, mais ces témoignages sont nombreux dans l'évangile de Jean. Par exemple, le Père l'a désigné comme son fils bien-aimé lors de son baptême, par une voix venant du ciel et qui a été entendue par les gens qui étaient venus au baptême de Jean-Baptiste. Et surtout, par les nombreux et puissants signes miracles que Jésus a accomplis, que le Père lui donnait à faire. Alors verset 19, « Mais où est-il ton père ?» s'exclamèrent-ils. La réponse de Jésus est à la fois triste et solennelle. « Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon père. » Alors Jean précise que Jésus a prononcé ces paroles pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près du tronc à offrande. Ce lieu était tout proche de la grande salle où se réunissait le Sanhédrin. Il est donc probable que bon nombre des membres du Sanhédrin ont entendu ces paroles, inadmissibles pour ces Juifs, imbus de leur connaissance de la loi de Dieu. Alors Jésus continue à piquer leur curiosité, tout en disant la stricte vérité et une vérité terrible. Verset 21, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Parole mystérieuse. Il se demande si par hasard il dit ça parce qu'il aurait l'intention de se suicider. On voit à quel point ces autorités religieuses juives n'avaient rien compris à la mission et au message de Jésus. Il ne mourra pas par suicide, mais suite à un jugement inique de leur part, justement, qui conduira à une mise à mort ignoble, justement pour expier les péchés, ceux de son peuple et ceux du monde entier. Mais Jésus prévient, « Vous ne me croyez pas ? Eh bien, vous mourrez dans votre péché. » Il parle là, bien sûr, de la mort spirituelle, la mort éternelle. Alors les paroles de Jésus se font de plus en plus dures, tout en étant totalement vraies. Verset 23, « Vous, vous êtes d'ici bas. Moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, si. Moi, je ne lui appartiens pas. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Il dit cela justement parce qu'il va retourner au ciel, auprès de son Père, et que là, il n'y a nulle place pour le péché. Et il réitère sa parole, certainement triste, de condamnation. « C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus utilise à dessein et pour la première fois dans ce chapitre l'expression « moi je suis ». C'est une allusion à la parole de l'Éternel à Moïse lors du fameux épisode du buisson ardent. Moïse demande son nom au Dieu qui lui parle. Réponse, je suis celui qui suis, ou celui qui est, pour respecter la grammaire française. Au milieu du polythéisme ambiant de l'époque de Moïse, le Dieu de l'univers, le seul vrai Dieu, affirme son existence éternelle. « Qui es-tu donc ?» lui demandent les Juifs, verset 25. Jésus leur répond qu'il n'a cessé de le leur dire depuis le début et fait référence au Père qu'il a envoyé, qui est véridique et dont il proclame au monde les paroles. Alors Jean nous dit qu'ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père, c'est-à-dire de leur Dieu. Alors Jésus ajoute au verset 28 que quand ils auront élevé le Fils de l'homme, alors ils comprendront que « moi je suis ». Cette expression dans la bouche de Jésus signifie à la fois son élévation sur une croix, c'est-à-dire sa mort, et sa glorification qui allait suivre avec son retour vers le Père, son œuvre étant achevée. Et chose étonnante, on voit au verset 30 que certains parmi ses interlocuteurs ont cru en lui. Du coup, Jésus s'adresse à cela, à partir du verset 31. Il va d'emblée mettre leur foi naissante à l'épreuve. Il leur dit, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Il leur demande de persévérer dans son enseignement, de s'attacher de tout leur cœur à ses paroles. C'est la condition pour faire d'eux des hommes libres. Alors ces « croyants » entre guillemets, se récrit plutôt. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres ? Comme l'a écrit le théologien suisse Frédéric Godet, le théologien du siècle dernier, ces nouveaux croyants sont déjà au bout de leur foi. Les interlocuteurs de Jésus ne font certainement pas allusion à leur passé national historique et politique, car ils savent bien qu'ils ont été sous domination étrangère depuis des siècles. Les Babyloniens, puis les Perses, puis les Grecs, et maintenant les Romains. Mais il est vrai qu'ils ont le plus souvent bénéficié, même sous domination étrangère, d'un statut particulier leur permettant d'exercer leur culte et de gérer leurs affaires selon la loi de Moïse. Sauf pendant un temps sous l'abominable souverain grec Antiochus Épiphane, qui échouera à vouloir helléniser de force les Juifs. C'est une chose qui nous est racontée dans les livres apocryphes des Maccabées. Mais Jésus ne parlait pas de liberté politique ou nationale, il parlait de la vraie liberté spirituelle et intime de chaque homme ou chaque femme devant Dieu. Verset 34, « Vraiment, je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Verset 35, or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Verset 36. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Dans l'Antiquité, le maître de la maison pouvait à tout moment renvoyer ou vendre un esclave qui avait démérité. et il pouvait conférer au fils de la maison, le fils aîné en général, cette prérogative. Jésus joue sur cette disposition. Si le fils de la maison du Père, que je suis, vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais il précise aussitôt de quel esclavage il peut les libérer, de l'esclavage du péché. Et ça, c'est la mission que le Père a donnée au Fils d'accomplir. Par sa mort sur la croix, il allait rendre possible la libération de l'esclavage du péché, ce qui était totalement impossible avant. Alors au verset 37, les interlocuteurs, qui sont dits comme des croyants, hein, de Jésus, prétendent être des hommes libres parce qu'ils sont fils d'Abraham. Mais cet argument ne tient pas pour Jésus. « Je sais que vous êtes enfants d'Abraham, leur dit-il. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Votre père, c'est ce fameux verset 44, hein, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Le mot original grec signifie littéralement tueur d'hommes. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Dans le chapitre 3 de la Genèse, le diable nous est présenté comme le père du mensonge. Il a réussi à tromper nos premiers parents et à précipiter toute l'humanité dans le péché et dans la mort spirituelle. Verset 45, « Mais moi, dit Jésus, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. » En somme, ceux qui ont pour père le diable, c'est-à-dire toute l'humanité tombée dans le péché, ne peuvent pas adhérer à la vérité sans une intervention que seul Dieu peut produire dans leur cœur, en attirant ces pécheurs vers son Fils, qui les reçoit et les garde jusqu'au bout. On avait déjà vu ça au chapitre 6, et on le voit de façon merveilleuse dans la prière sacerdotale du chapitre 17. Verset 47. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Écouter a aussi en grec le sens d'obéir. C'est pas simplement une écoute intellectuelle. Là, les interlocuteurs de Jésus deviennent carrément insultants. Ils le traitent de samaritain et même de démoniaque. À ces insultes, Jésus répond simplement que s'il jette le déshonneur sur lui, lui honore son Père et que ce dernier lui rendra justice. Verset 51, Jésus va encore plus loin avec des paroles extrêmement choquantes pour ses interlocuteurs et pourtant totalement vraies et de la plus haute importance. C'est pourquoi il les introduit par cette fameuse formule « en vérité, je vous dis ». « Vraiment, je vous l'assure, dans la traduction du semeur, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. » La traduction du semeur a choisi le verbe « observer » dans l'original, le sens premier est « garder ». Le sens est donc d'observer et de garder fidèlement les enseignements de Jésus et d'y mettre toute sa foi. Jésus veut dire par là que celui qui met sa foi entièrement dans son enseignement ne mourra jamais dans le sens où, par sa foi en Jésus, il a déjà la vie éternelle, qui continuera par-delà la mort physique du corps. Cette parole ne fait que convaincre un peu plus les Juifs que Jésus a un démon. Pour eux, à l'évidence, Abraham et tous les prophètes sont morts, et lui ose prétendre qu'à une certaine condition, le fait de garder sa parole, on ne meurt jamais. Verset 52, « Pour qui te prends-tu donc ?» Sous-entendu, tous ces hommes de foi illustres sont bel et bien morts, il y a des siècles. Et toi, tu prétends que garder tes paroles confère la vie éternelle? Tu te crois donc plus fort qu'eux? Ou en tout cas, avoir encore plus que tous la faveur de Dieu au point d'atteindre à la vie éternelle? Verset 54, Jésus, dans sa réponse, ne revendique pas cette gloire, mais il est sûr que celui qui le glorifiera, c'est son Père. Abraham, votre Père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. réponse des Juifs, tu n'as pas même 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Il faut dire que 50 ans, à l'époque, représentait pour les Juifs simplement la plénitude de l'âge adulte. Ça ne veut pas dire que Jésus avait 50 ans à ce moment-là. Et là, Jésus revendique un attribut qui n'appartient qu'à Dieu seul, l'éternité. Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Ce fameux « je suis » permanent que Dieu seul peut prononcer. Les Juifs comprennent très bien qu'il se fait l'égal de Dieu. Ils prennent des pierres pour le lapider. Mais son heure n'était pas encore venue. Il disparaît dans la foule et sort de l'enceinte du temple. Oui, un passage qui est dur, hein, qui est vraiment âpre. Cette bagarre entre les Juifs et Jésus qui a apporté pourtant la vérité et l'amour du Père. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Jean 1, verset 5. Quelle est la conséquence pour ces Juifs à majorité incrédule? Ils mourront dans leur péché, car ils ont délibérément refusé d'être délivrés de son esclavage. Alors ce drame concerne-t-il uniquement les Juifs? Non. Il concerne tous les hommes, car par nature, tous sont séparés de Dieu par leur péché pour avoir écouté la voix de celui qui est menteur et meurtrier dès le commencement. Il a réussi à leur faire croire à ses mensonges et il les précipite avec lui dans la mort éternelle. Les Juifs, dont parle Jean, étaient des gens religieux qui étaient très fiers de leurs racines, de leur connaissance de la loi de Dieu. Pour autant, ils sont enfants du diable, puisqu'ils refusent d'écouter et de croire à la parole de celui qui seul dit la vérité et qui seul peut donner la vie. Notez que Jean parle d'un groupe, au moins parmi ces Juifs, qui a cru en lui, on l'a vu au verset 30. Et c'est à ce groupe que Jésus parle d'affranchissement de l'esclavage du péché. Il semble bien dans ce texte que ce soit ce même groupe qui s'enorgueillit de ses racines. Nous avons Abraham pour père, mais qui, selon Jésus, ont pour père le diable. Ces gens ont probablement cru que Jésus était bien le Messie tant attendu, qui libérerait leur peuple du joug des Romains. Ils n'ont pas compris ou voulu comprendre qu'ils ont besoin d'une délivrance bien plus importante, celle de leur péché. Et c'est pourquoi, s'ils ne gardent pas les paroles de Jésus, ils mourront, eux aussi, dans leur péché. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas notre appartenance à un groupe religieux qui nous sauve. Il nous faut garder au sens le plus fort les paroles de Jésus, c'est-à-dire lui obéir. Sinon, tout comme ces Juifs, nous mourrons dans notre péché. Il ne s'agit pas d'observance légaliste de commandements, mais de l'intime conviction que seul le sang de Jésus nous sauve de notre péché. Nous savons bien par expérience, et l'Écriture le confirme, que nous restons des pécheurs. 1 Jean 1, verset 8, écrit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Verset 9 « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Verset 10 « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Mais par l'œuvre glorieuse de Jésus-Christ à la croix, nous sommes délivrés de l'emprise du péché qui nous retenait en quelque sorte esclaves. C'est de cette liberté que Jésus parlait au peuple juif et qu'il offre à tout homme qui croit réellement en lui. Alors, eh bien, soyons à la hauteur de notre affranchissement, ayons en horreur le péché, et s'il nous arrive d'y tomber, confessons-le aussitôt pour recevoir son pardon. Et ainsi, nous continuerons à marcher dans la lumière. Est-ce que tu peux envoyer la première diapo, s'il te plaît? Qu'est-ce qui différencie donc un noble livre d'un esclave, d'après Jean 8? Oui. Mais il a donné un critère, Jésus, qui est... Oui, c'est vrai, nous sommes esclaves du péché. Enfin, nous étions esclaves du péché. Bon, tu passes la diapo suivante qui donne la réponse. Voilà. Alors vous avez la réponse là, c'est Jésus qui la donne. Hein. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils de la maison, lui, il demeure à toujours. Hein, l'esclave, il pouvait être renvoyé, il pouvait être vendu par le maître, hein, il avait toute autorité. Le fils, non. Voilà. Diapo suivante. De quel esclavage Jésus parle-t-il dans ce discours? Là, je crois que vous l'avez compris. L'esclavage du péché. Hein, il le dit très clairement. Il s'agit de l'esclavage du péché. Ce que ses interlocuteurs n'ont pas compris du tout, hein, d'ailleurs. Hein. La suivante. Donc, de l'esclavage du péché, c'est-à-dire notre incapacité naturelle à ne pas pécher. La suivante. Donc, on résume, hein, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Le Fils de Dieu est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli, on l'a lu, hein. Certains pourtant l'ont accueilli. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 11. C'est pourquoi eux font partie de la famille à toujours. Et c'est par grâce que nous sommes. La suivante. Comment devenons-nous des hommes libres, c'est-à-dire délivrés de l'esclavage du péché? En devenant croyants, oui. En devenant des fils, oui. Et Jésus a quand même donné une réponse précise à cela. Vous avez la réponse là. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. On a dit qu'on est toujours pécheurs, hein, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus sous cet esclavage. Nous pouvons surmonter le péché par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais la condition, elle est là. C'est si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée. Et c'est quoi cette parole? Ben, c'est toute la Bible. Toute la Bible inspirée du Saint-Esprit. Et notamment les paroles de Jésus. Je crois que c'est la dernière diapo. Donc. Ah oui, pardon. Suis-je un homme libre au sens de délivrer de l'esclavage du péché parce que je fréquente une église? Ben non. Hein, je crois qu'il y en a encore une. Oui, c'est ça. Je ne le suis pas plus que les Juifs auxquels Jésus s'adresse dans ce chapitre, qui croient être des hommes libres parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham. Comme pour ces Juifs de son époque, Jésus détruit toute illusion. Hein. Nous ne sommes des hommes libérés de l'esclavage du péché que si nous gardons ses paroles et y obéissons. Que le Seigneur bénisse cela dans nos cœurs et fasse de nous vraiment des libérés de l'esclavage du péché.